Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Gwendoline Langlois.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h30, vous êtes les bienvenus dans cette troisième émission de Microcité, votre rendez-vous d'actualité sur Radio Campus Grenoble. Les spectateurs semblent bouder les lieux de culture depuis quelques temps. Est-ce la faute au pass sanitaire? On en parle avec Léa Bouvet et ses invités. Oseriez-vous poser entièrement dénudé? Un atelier grenoblois propose des cours de dessin avec des modèles complètement nus. Clémentine Proutot est allée poser son micro près de leur palette. Vous êtes bien sur Radio Campus, on est ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti! Mais sans plus attendre, le journal d'Anouk Caron. Bonjour Anouk.
Bonjour. Samuel Paty se faisait assassiner par un terroriste il y a un an. Aujourd'hui, une minute de silence s'est tenue dans les classes et l'émotion reste toujours bien présente chez les professeurs. On l'entendra en ce début de journal. Ce 1er janvier, vous ne verrez plus d'emballage plastique autour des fruits et des légumes frais non transformés du supermarché. Cette nouvelle loi vise à réduire les emballages à usage unique. On vous explique tout ça avec Clémentine Proutot. Et en fin de journal, on parlera de la fracture numérique. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte à Emmaüs Connect à Grenoble. L'association cherche des bénévoles pour lutter contre cette problématique. Agathe Legrand est allée sur place pour nous parler de tout ça. Il y a un an, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty se faisait assassiner devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, une minute de silence et des débats sur la laïcité sont prévus dans les classes. Et un peu partout en France, plusieurs rassemblements se sont tenus, comme ici sur le campus de Sciences Po à Saint-Martin-d'Hères.
En enseignement supérieur, c'est un moment important de rappeler nos objectifs, de rappeler nos valeurs communes, à savoir à permettre à tout enseignant, toute enseignante, tout étudiant et étudiante, la liberté académique, la liberté d'expression dans un état de droit que nous sommes. Et c'était un moment important de nous recueillir ici aujourd'hui devant l'IEP.
C'était le témoignage de Sabine Sorger, directrice de Sciences Po Grenoble. Il y a 60 ans, le 17 octobre 1961, des milliers d'Algériens se faisaient massacrer en plein Paris. Lors d'une manifestation, certains se sont fait jeter dans la Seine ou ont été tués par balle par la police française. Emmanuel Macron commémorera l'événement demain. Les tests Covid dits de confort deviennent aujourd'hui payants pour les personnes non vaccinées. Cette mesure vise à encourager les derniers réticents à recevoir leur dose de vaccin. Désormais, les personnes concernées devront débourser à minima 44 € pour un test PCR et 22 pour un test antigénique. Et si la troisième dose de vaccin contre le Covid-19 était obligatoire pour conserver votre passe sanitaire? C'est ce qu'a laissé entendre la ministre du Travail, Elisabeth Borne, au micro d'Europe 1 hier matin. Cette hypothèse est examinée, mais rien n'est encore décidé. On l'appelle l'affaire du siècle. Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français ce jeudi pour ses manquements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2022 pour prendre toutes les mesures utiles afin de compenser l'excès d'émissions de CO2 constaté entre 2015 et 2018. 30 milliards d'euros investis dans l'industrie de l'avenir, c'est l'annonce qu'a faite Emmanuel Macron ce mardi. Il prévoit un plan d'investissement massif nommé France 2030. L'argent va être injecté dans des domaines tels que le numérique, l'hydrogène vert ou encore les énergies renouvelables pour réindustrialiser la France. Ces annonces ont été critiquées par l'opposition qui l'accuse déjà d'être entré en campagne pour 2022. Pommes en barquette ou poivrons dans des sachets plastiques, dans les supermarchés, les exemples de suremballage ne manquent pas. À partir du 1er janvier, ces petites boules de plastique seront interdites. Mais en pratique, consommateurs et producteurs ont déjà commencé à changer leurs habitudes. À Grenoble, Clémentine Proutot est allée les rencontrer.
Acheter ces légumes sans emballage plastique relève déjà de la logique pour ces passantes grenobloises.
Je prends toujours en vrac quand même et je mets toujours dans les sachets en papier et pas en plastique.
J'essaye de limiter mes déchets. Enfin, la quantité de mes déchets, donc des légumes qui ont de la peau ou des fruits qui ont des peaux, je vois pas l'intérêt de rajouter du plastique par-dessus.
Ces passantes, pas franchement fans de plastique, sont pour certaines clientes de la boutique Vrac de Brice, où la majorité des fruits et légumes sont vendus sans emballage, sauf certains produits fragiles comme la framboise.
Nous, on avait déjà réfléchi à essayer de voir pour les mettre soit juste dans des barquettes, mais sans plastique au-dessus. Là, en fait, on est obligé parce que les gens ne peuvent pas toucher en fait, le produit, c'est beaucoup trop fragile.
Du côté de la charrette bio, difficile aussi de se passer de plastique. En attendant, le collectif de producteurs a trouvé une petite astuce pour limiter son impact écologique, mettre en place un système de consigne du plastique.
On pourrait mettre des petites barquettes en bois, mais il va y avoir le même problème de réusage. Est-ce qu'on pourra le réutiliser aussi souvent? Qu'est-ce que ça va produire comme déchet? Pour le coup, ce sera du déchet bois, donc peut-être plus exploitable, plus revalorisable que le plastique, mais on aura quand même encore ce problème-là.
L'association a le temps de réfléchir à un nouveau système sans plastique, puisque la mise en place de la loi se fera par étapes et que les fruits rouges ne seront concernés qu'en 2026.
Et aujourd'hui, 37% des fruits et légumes sont vendus sous emballage plastique en France. McDonald's dans la tourmente, l'UFC Que Choisir a porté plainte contre le géant américain. Le fast-food est accusé d'utiliser des enfants influenceurs pour faire la promotion de ses produits sans préciser qu'il s'agit de partenariats. McDonald's dénonce une poursuite abusive. Un Français sur quatre déclare rencontrer des difficultés avec le numérique, que ce soit l'accès à Internet ou les compétences qui manquent. La pandémie a servi de révélateur à cette fracture numérique. Avec ses 14 sites d'accueil en France et depuis sa création en 2013, Emmaüs Connect a aidé plus de 90 000 personnes. Agathe Legrand est partie voir comment l'antenne de Grenoble s'organise.
Bonjour, bienvenue chez Emmaüs Connect.
À Grenoble, c'est Laetitia Charlet qui gère le point d'accueil d'Emmaüs Connect. La jeune femme organise les différents pôles et leur coordination au sein de la structure.
Ici, on a la vente de recharge à tarif solidaire, c'est-à-dire qu'on vend des systèmes prépayés. On peut avoir un smartphone et on peut avoir aussi un ordinateur pour pas très cher, pour 50 euros. C'est des ordinateurs qu'on récupère auprès d'entreprises et qu'on reconditionne.
En plus de l'achat d'appareils électroniques, Emmaüs Connect propose également d'apprendre à s'en servir.
C'est de la formation, c'est des personnes qui viennent pour de l'aide individuelle, qui se font aider par nos bénévoles qui sont là.
Voilà, complété.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement?
La dame, problème de mot de passe avec son compte France Connect.
Gérard est bénévole dans la structure depuis janvier.
Je connaissais un peu l'informatique et j'ai vu qu'actuellement, il y avait beaucoup de demandes pour aider les personnes qui ont des difficultés avec l'informatique, pour se connecter au compte impôt, Pôle emploi, tout ça. Maintenant, sans maîtrise de l'informatique, c'est pas évident.
Avec la pandémie, les besoins en informatique ont augmenté. L'antenne grenobloise accompagne désormais 750 bénéficiaires tout au long de l'année. Un nombre qui les pousse à chercher de nouveaux bénévoles.
Et enfin, le camembert n'est plus le fromage à pâte molle préféré des Français. Il s'est fait devancer par la mozzarella.
Oui, d'accord, mais bon, on va quand même pas en faire tout un fromage. Merci Anouk pour ce journal. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h37. Dans un instant, ce sera le dossier de la semaine avec Léa Bouvet. Elle reçoit deux invités pour discuter de l'impact du pass sanitaire sur les lieux culturels.
Thank you.
C'était Come and Get Your Love de Redbone. Il est 16h41. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8.
Microcité, en direct jusqu'à 17h.
Dès que possible, le pass sanitaire sera levé dans les lieux de culture. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sur BFM TV. Elle estime aussi que ce serait une erreur de conclure que la baisse de fréquentation que subissent actuellement les théâtres et cinémas serait liée au pass sanitaire. On en parle tout de suite avec Léa Bouvet et ses invités. Bonjour Léa.
Bonjour Gwendoline, bonjour à tous. Depuis leur réouverture le 19 mai, les salles de spectacle peinent à retrouver leur public. Une tendance nationale difficile à chiffrer et surtout difficile à expliquer. Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, Agathe Legrand, les lieux culturels ont été fermés pendant plus d'un an. Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur le secteur ?
Oui, en effet, plus d'un an de fermeture. Rappelez-vous, c'était en décembre dernier, tout rouvrait, sauf les lieux culturels. Il leur faudra attendre encore 6 mois, soit le 19 mai 2021, pour que le public puisse enfin passer les portes des cinémas, théâtres ou encore salles de concert. Et encore, même ainsi, le couvre-feu et les jauges, d'abord fixées à 1000 spectateurs maximum, puis élargies à 5000 le 9 juin dernier, empêchent le secteur de repartir correctement. Alors, quelles conséquences sur l'économie ? Le cinéma a enregistré une baisse de 69% de la fréquentation en 2020 et l'industrie musicale a perdu 84% de son chiffre d'affaires. La France n'est pas le seul pays touché. Au sein de l'Union européenne, en un an, c'est près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus.
Merci Agathe. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio avec nous Solange Azéma et Josépha Gallardo. Solange Azéma, vous êtes responsable administration et communication au Café Théâtre Associatif La Basse-Cour à Grenoble. On y retrouve des spectacles centrés sur l'humour, l'improvisation, mais aussi des ateliers de pratiques théâtrales et musicales. Merci d'être avec nous. Josépha Gallardo, vous êtes directrice de la rampe La Ponatière, une scène conventionnée art et création à Échirolles avec une vaste programmation, une trentaine de spectacles par an, mêlant musique, cirque, art et art du geste. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Donc pour commencer, en quelques mots, j'ai envie de vous demander comment déjà est-ce que vous avez traversé la période de la crise sanitaire, notamment d'un point de vue économique. Josépha Gallardo, est-ce que votre établissement souffre encore aujourd'hui des conséquences de la fermeture ?
Alors, par rapport à cette crise, il y a différentes périodes, puisqu'il y a eu d'abord la sidération en mars 2020, quand ça a été fermé, où là, on était totalement fermé, pas de possibilité d'accueil de compagnies artistiques. Il a fallu gérer à ce moment-là la question du remboursement des spectateurs, la question de l'indemnisation des compagnies, mais pas seulement, il y a aussi le secteur de l'hôtellerie, le secteur en fait, des techniciens, des intermittents techniques. Donc, ça a été des réunions en visio avec d'autres directeurs. Et ça a été une période où c'était un peu cette sidération. Et puis, une deuxième période en octobre, puisqu'on a rouvert un peu en septembre. Et on a été de nouveau fermé en octobre. Mais cette fois, avec une possibilité d'accueillir des artistes en résidence. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des rencontres professionnelles, donc des artistes qui ont pu présenter en fait, leur travail. Et il y a quand même eu des spectacles qui se sont déroulés et qui se sont déroulés dans des établissements scolaires où là, on pouvait aller, en fait. Et également des ateliers. On a quand même pu mener un certain nombre de choses sur cette deuxième période. Néanmoins, les impacts sont ceux, on en parle pas mal, de l'embouteillage par rapport aux créations des compagnies qui ont eu lieu en fait en 2020, qui n'ont pas pu circuler, en fait, qui n'ont pas pu tourner, et puis des créations nouvelles. Et du coup, sur la programmation, comment, en fait, que faire ? Est-ce qu'on reportait les spectacles ? Est-ce qu'on programmait de nouveaux spectacles ? Donc, un équilibre à tenir pour maintenir aussi l'équilibre au niveau des compagnies et qu'il n'y ait pas trop de casse.
Et donc ça continue de vous impacter encore aujourd'hui, là, au mois d'octobre ?
Et ça risque de... on a dans notre programmation, on a 18 reports sur 36 spectacles. Donc, c'est la moitié. Et sur la saison d'après, peut-être qu'il y aura encore des spectacles qu'on n'a pas pu reprogrammer là, qui nécessitent de la visibilité et qu'on aura besoin de reprogrammer sur la saison d'après. Donc cette question des embouteillages, elle risque de perdurer encore pendant 2 ans, au moins. si ce n'est plus.
Merci. Et vous, Solange Azéna, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Est-ce que la crise du Covid continue de vous impacter encore aujourd'hui d'un point de vue économique ou organisationnel?
Eh ben, nous, c'est vrai qu'on rencontre la même problématique du report de spectacle. Ça, c'est sûr. Après, en termes d'organisation, sachant que la basse-cour est une association avec 3 salariés et le reste de l'équipe est composé de bénévoles, nous aussi, on a un impact sur l'organisation de l'activité même. Donc, retrouver nos marques, notamment avec les bénévoles. Relancer toute cette activité. Là, actuellement, la rentrée est un peu difficile en termes de jauge, en termes de remplissage.
Si vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner pour qu'on se rende compte de cette baisse dont on parle au niveau national, vous la constatez, vous avez un ordre d'idée peut-être?
Oui, chez nous, alors si on compare avec septembre 2019, du coup qui était un mois normal, sachant que le mois de septembre, il y a quand même l'effet rentrée, c'est pas forcément le mois... il y a toujours un petit effet où ça se remet en place. Mais là, comparé à 2 ans, on est à 50% de moins en termes de fréquentation. Donc, c'est vrai que là-dessus, oui, on le voit nettement.
Et au niveau justement de cette baisse de chiffres dont on évoquait au niveau national, selon vous, elle vient d'où, par exemple, la rampe, c'est quelque chose que vous constatez aussi. Selon vous, c'est dû à quoi?
Alors nous, on le constate également, mais on n'est pas sur des chiffres aussi conséquents. Au départ, on partait sur 30% de moins d'abonnés au niveau public. Et finalement, on est à 20% pour l'instant. Et ce qui est bizarre, c'est sur les gens qui reviennent, il y a une appétence quand même avec un nombre de spectacles plus conséquent quand ils sont abonnés en fait, d'achat. Donc, comment ça s'explique? Certainement, il y a des personnes qui ont pris des habitudes, qui ont peut-être du mal à revenir. Il y a peut-être aussi la question de la peur de se retrouver dans des endroits fermés. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à ça.
Justement, nous, on est allé poser un petit peu la question aux habitants dans Grenoble, dans les Chirolles. Mireille, Joséphine, Lucas, Bernard, Kamel ou encore Fatia, ils sont étudiants, juristes ou retraités. Et on leur a demandé s'ils étaient retournés dans les salles de spectacle depuis la crise.
Je suis retournée au théâtre, mais j'ai un pass avec une seule injection, le Janssen. Quand je suis allée au théâtre, on n'a pas voulu, vu que le scan disait invalide. Maintenant, j'ose plus aller tellement nulle part.
Pendant la crise sanitaire, c'était beaucoup de Netflix et ça a plutôt, pas remplacé, mais c'est l'habitude. C'est plutôt l'habitude, on est déjà à la maison.
Non, beaucoup moins souvent, ouais. Franchement, j'y suis pas retourné depuis très longtemps, là. J'ai plus l'envie, j'ai beaucoup moins l'envie et j'y pense beaucoup moins.
J'y vais plus bien maintenant. Je crois que ça m'a coupé l'envie d'y aller. Il y a l'épidémie qui est pour beaucoup quand même. C'est ça qui a arrêté, alors j'arrive pas à repartir, quoi, disons.
Je me suis restreint pour le moment à une diminution du phénomène d'épidémie, quoi. J'attends vraiment que tout aille mieux pour y retourner.
Ce soir, justement, je suis invitée à une pièce de théâtre à MC2, là. Ce sera ma première sortie, voilà. Quand il y a des sorties avec la MDH, comme moi, voilà, je suis retraitée, on y va maintenant avec le pass sanitaire, j'ai le vaccin, j'ai tout ce qu'il faut. De toute façon, les gens qui vont, ils ont tous le pass sanitaire, on a moins peur que, voilà. Ceux qui n'en ont pas, ils n'y vont pas.
Des réactions peut-être selon Jasmine par rapport à ce qu'on vient d'entendre, certains témoignages?
Oui, je trouve ça très intéressant. C'est vrai que bon, il y a le pass sanitaire d'une part. Nous, on a eu quelques retours de personnes qui nous ont dit clairement si vous demandez le pass, on ne viendra pas. C'est pas non plus une majorité. Après, effectivement, ça c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il y a eu d'autres habitudes qui se sont mises en place, un autre rythme. Les gens ont investi aussi d'autres choses pendant les périodes de confinement. Et c'est des choses après qui vont se remettre en route petit à petit, en tout cas j'espère.
Et vous, Josefa Gallardo, peut-être un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre, sur les témoignages qu'on a pu recueillir?
Je pense que ça reflète ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire d'autres habitudes, comme elle vient de le dire, d'autres habitudes qui ont été prises. Et il y a cette personne qui a dit, moi j'y vais, parce que j'ai le pass sanitaire, j'ai tout ce qu'il faut. Et du coup, tous les gens qui y sont, ils ont aussi le pass sanitaire, donc j'ai moins peur.
D'une certaine manière, ça rassure aussi certains usagers. Ça leur a permis de retourner vers les salles de théâtre. C'est intéressant de le noter aussi.
Oui, il y a une partie, effectivement. Pour eux, ça va être plutôt un argument positif.
Et pour ce qui est peut-être de l'organisation interne, le pass sanitaire, c'est aussi quelque chose qui est exigé auprès des équipes. Est-ce que c'est un frein pour vous, Josepha Gallardo, dans l'organisation interne au niveau de la rampe, l'accueil des articles, par exemple?
J'ai eu la chance, je vais dire, dans l'équipe, que toute l'équipe s'est fait vacciner, de ne pas avoir de réfractaires au vaccin. Mais par contre, dans d'autres équipements, il y a des personnes qui sont réfractaires et du coup, ça suppose les soirs de spectacle et dès qu'ils sont en contact avec le public, d'avoir été testés. Ça suppose un certain nombre de choses. Mais nous, à la rampe, on a la chance d'avoir tout le personnel vacciné.
Et au niveau de la basse-cour, ça s'est passé comme ça aussi ou ça a engendré quelques difficultés internes?
Alors, j'allais dire, on n'a pas de grosses difficultés non plus. Après, c'est vrai que nous, comme on a cette organisation avec beaucoup de bénévoles en soirée, il y a aussi quand même certaines personnes qui ne viennent plus actuellement à cause du pass sanitaire. On a également des ateliers de pratiques théâtrales et musicales, comme vous l'aviez dit au début. Donc là, c'est pareil, on voit quand même une petite baisse sur certains ateliers d'inscription. Bon, voilà, on a eu quelques professeurs aussi. Il y a eu pas mal de discussions à ce niveau-là.
D'accord, merci. Et dernière petite question peut-être pour clore ce dossier, par rapport à la baisse de public mitigée ou pas, dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour ramener un peu du public? Est-ce qu'il y a des dates, des événements à venir dont vous avez envie de parler? Peut-être d'abord vous pour la rampe.
Alors nous, donc on a Josette Baïs la semaine prochaine avec Baobab, un spectacle à l'énergie jubilatoire avec 14 jeunes danseurs âgés de 8 à 12 ans, mais qui n'ont rien à envier en fait aux grands, puisque sont de véritables stars de la scène. Et c'est surtout un spectacle qui fait prendre conscience qu'il faut savoir préserver la nature et par rapport à ce qu'on vient de vivre, c'est essentiel. Mais je voulais aussi parler de notre compagnie en résidence, le collectif S, qui va créer une pièce autour du désaccord sur fond de Marseillaise, de God Save the Queen, de musique punk. Et ils vont être en résidence chez nous à la rampe. Et ils vont faire une sortie de résidence le 28 octobre à 18h. Et j'invite vraiment les étudiants à venir voir le travail des S, qui est vraiment jubilatoire et très physique.
Merci. Et à la basse-cour, un événement à venir, quelque chose, rattirer le public?
Alors là, on est en préparation d'un nouveau format de spectacle qui aura lieu chaque premier mercredi du mois. Donc un concept de plateau d'artistes avec des invités à la fois d'artistes déjà installés, reconnus, locaux ou même un peu moins, et puis des artistes également amateurs. Donc avec aussi vraiment un concept de late show avec un présentateur, Cédric Chartier, qui est lui-même humoriste. Ça serait aussi un moment de croisement des disciplines artistiques, donc il n'y aura pas seulement des humoristes, il peut y avoir aussi des musiciens, des circassiens, enfin voilà, d'autres propositions pour vraiment créer un temps aussi d'émulation avec le public et puis entre artistes, ce qui sera aussi l'occasion, on espère, d'attirer les élèves de la basse-cour pour se présenter sur scène.
Merci à vous et merci beaucoup à toutes les deux d'être venues en tout cas nous parler, participer à ce dossier. Je rappelle, Josepha Gallardo, que vous êtes directrice de la rampe La Ponatière, scène conventionnée à Échirolles, et que vous, Solange Azéma, vous êtes responsable administration et communication au Café Théâtre Associatif La Basse-Cour à Grenoble. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble 90.8. Pour la suite de cette émission, direction le studio Eden. Dans cette agence de publicité, on peut à la fois se faire tatouer, photographier et suivre des cours de dessin un peu particuliers. Car ici, tous les modèles posent entièrement nus. Alors pourquoi participer à ce genre de cours? Qu'apporte-t-il de plus par rapport à un cours de dessin classique? Réponse avec Clémentine Proutot.
Dans le quartier de l'Estacade, il fait bientôt nuit. Marie, 28 ans, va poser dans le plus simple appareil. Et avant le début de l'atelier, elle se confie sur le rapport qu'elle entretient avec son corps depuis qu'elle est modèle.
Je me suis énormément réappropriée tous les détails que moi j'aime pas forcément, mais auxquels des dessinateurs peuvent faire attention et qui font le charme en fait de chaque personne. Enfin moi je sais que j'adore poser pour le dessin parce que je me vois sous un angle que je connais pas, parce qu'en fait chaque dessinateur va faire attention à des trucs très spécifiques. Il n'y a pas de recherche de mise en valeur du corps, c'est un rapport vraiment anatomique. On cherche juste à dessiner ce qu'on voit. Et après ça reste une expérience particulière parce qu'on est complètement nu dans le silence des gens qui dessinent, avec des personnes qui nous fixent ou qui nous regardent régulièrement.
Il y a des sièges là-bas aussi. Simon, deux sièges pour en... Bonjour.
Là, on met en place le setup pour les poses. Donc moi, je vais être de ce côté-là, là où il y a les petits tabourets. On a les estrades, il y a une torsion du corps qui est intéressante à dessiner. Et sinon, on a des poses debout et après, il faut que ce soit confortable. Donc j'ai plein de plaids et des coussins.
Une fois les dessinateurs installés, le propriétaire Philippe Piga ferme le store du studio. Il lance la musique. La première pose démarre.
5 minutes chrono, c'est parti.
Mais qu'est-ce qui pousse les dessinateurs à s'exercer au portrait de nu en fait ? Eh bien pour Cyril et Clara, deux habitués des lieux, c'est avant tout le défi technique qui les intéresse.
Eh ben, parce que c'est complexe encore, s'il y a un défaut, ça se voit tout de suite. Dire un pot de fleurs, une fleur, on va oublier quelque chose, c'est pas très grave. Un corps, quel que soit le mouvement qu'on va oublier ou la ligne, ça peut tout changer.
Et aussi dessiner un corps réel qu'on a devant nous, c'est un exercice très différent de dessiner un corps qu'on voit sur une photo. À cause de la perception en 3D, on va avoir des membres qui vont être très raccourcis et ça, pour arriver à les rendre d'une manière qui nous plaise sur la feuille, c'est très compliqué et je trouve ça extrêmement gratifiant quand on arrive à avoir quelque chose qui nous plaît à la fois.
Après 2 heures, le cours s'achève, un rythme intense qui n'empêche pas Marie, Philippe, Clara et tous les autres de se retrouver chaque lundi soir.
Bon, et bien sûr, pour ceux que ça impressionne un petit peu, hein, de nombreuses associations proposent des cours de dessin un peu plus conventionnels. Et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Anouk Caron.
Un nouvel attentat est survenu ce midi dans une mosquée chiite en Afghanistan. 33 morts et 50 blessés sont à déplorer. L'attaque n'est pas encore revendiquée, mais l'État islamique multiplie les offensives dans le pays depuis le retrait des troupes américaines. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, la France se souvient. Toute la journée, de nombreux hommages et débats ont eu lieu. Ce matin, des imams de la Grande Mosquée de Paris se sont notamment recueillis devant le collège où le drame avait eu lieu. Les personnes non vaccinées et ne bénéficiant pas de prescription médicale devront désormais payer leur test Covid. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Le but est d'inciter un maximum à la vaccination. Enfin, ce week-end sera ensoleillé avec une hausse des températures sur l'ouest du pays.
Merci Anouk pour cette piqûre de rappel. Bon, l'émission touche à sa fin. Merci à Louis Askevin et à Sarah Paulet à la technique. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une prochaine émission, toujours sur Radio Campus Grenoble. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou réécouter l'émission en replay sur le site de Radio Campus Grenoble.